Radio Star Bell.
Buona
che
recenti
in la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Espagne que nous allons, où l'on va voter pour la quatrième fois en quatre ans. Ce sera le 10 novembre prochain, puisque le Parlement est sur le point d'être dissous. Coup de menton, coup de corne, dispute et crise catalane pour expliquer cette instabilité. L'Espagne regrette peut-être l'époque du bipartisme. On y vient avec notre première invitée. Le bruit du monde est en Afghanistan, avec des habitants à Kaboul qui ont le sentiment de payer de leur vie la présence des étrangers visés par les attentats. Et Amélie Perrier nous racontera notamment une dispute diplomatique autour d'une épave. 18h50, le monde selon Trump et Grégory Phillips, ou comment les coups de fil de Donald Trump en Ukraine mettent l'opposition hors d'elle. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et un pré-accord passé pour une meilleure répartition des migrants. C'est presque miraculeux, accord européen bien sûr. Allez, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Barbara Loyer.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique à Paris 8, spécialiste de l'Espagne. Quatre fois en quatre ans, je le disais, que les Espagnols vont aux urnes avec un cocktail de crise interne au parti, de tactiques populistes, de tactiques politiques, et encore que le lapsus est intéressant, de crise catalane aussi. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, en fait, pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Le départ de la pure instabilité, est-ce qu'on le date à 2015, quand Podemos fait son entrée, quand Ciudadanos fait aussi son entrée, et que subitement le bipartisme confortable table a explosé en éclats, c'est là que ça commence.
Bah en fait, il y a deux choses. Il y a en effet l'apparition de ces partis, avec ensuite l'ajout de Vox, le
absolument,
parti d'extrême droite,
mm-hmm.
donc ça fait un de plus. Et en même temps, il y a la crise catalane, mm-hmm. le premier pseudo-référendum en 2014, puis le deuxième ensuite que Mariano Rajoy a dû gérer. Donc les deux sont concomitants et les deux, du coup, compliquent considérablement les relations entre les partis politiques espagnols, puisque l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces séparatistes catalans ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça crée des divisions et des lignes rouges infranchissables, parce que l'indépendance de la Catalogne, c'est un petit peu comme si la moitié de l'ancienne région Rhône-Alpes était divisée et qu'ils voulaient faire sécession. C'est, du point de vue économique, c'est considérable. Du point de vue historique aussi, c'est considérable. Donc c'est un enjeu existentiel qui s'est invité dans le débat au moment où les partis se fragmentent.
Alors, restons un peu sur cette petite période, donc de 2015 à aujourd'hui. Il y a ces fameuses élections, donc en 2015, l'arrivée de Ciudadanos, l'arrivée de Podemos, donc il y a ce jeu qui est un peu bloqué. Qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là pour que de toute façon, ça marche pas, pour qu'on ne trouve pas une coalition? Est-ce qu'on dit qu'il y a une sorte de péché d'orgueil peut-être aussi, notamment de la part de Podemos, qui était le seul mouvement issu des manifestations notamment, qui était en train d'émerger en Europe à ce moment-là en tout cas?
C'est vrai que Podemos aurait pu permettre la formation d'un gouvernement de Pedro Sánchez qui avait fait un pacte de gouvernement avec Ciudadanos. Et là, l'extrême gauche aurait pu permettre que ce gouvernement advienne et n'a pas voulu, sans doute par radicalisme, et pour montrer à ses électeurs qu'ils étaient les seuls capables de véritablement conquérir le ciel, comme il disait, et tout changer en Espagne. Et le but, à ce moment-là, de Pablo Iglesias et de Podemos, c'est de passer devant le Parti Socialiste.
Donc c'est de jouer la carte du « on rentre pas dans cette coalition-là, on fait exploser le jeu et on sera les premiers ensuite ».
C'est de dire, voilà, ça prouve que le Parti Socialiste n'est pas suffisamment proche des gens. C'est comme ça qu'il disait à ce moment-là, et que les véritables défenseurs de l'intérêt des gens du peuple, c'est nous. Donc là, oui, je pense qu'il y avait à ce moment-là une dynamique de conquête de plus de pouvoir, une sorte de fuite en avant dans l'idée que ça allait marcher, quoi. Ils ont été grisés sans doute par des résultats qui ont été brusques et sans doute inattendus.
Et qui ne se sont pas renouvelés parce que, et de deux, même schéma aux élections suivantes où là ils vont finalement perdre du terrain. Et même si Rajoy, chez les conservateurs, en perd aussi, il reste la formation, de toute façon, la formation de départ. Donc c'était en fait une mauvaise lecture aussi peut-être de la société espagnole à ce moment-là, trop tôt ou pas?
Oui, je pense qu'il y a un peu, vous parliez de péché d'orgueil, il y a une sorte d'illusion on a cru dans des rêves fous de dépassement Et donc, du coup, en fait, il y a quand même un socle pas très important, parce que le Parti populaire a perdu une quantité considérable de sièges et de voix. Mais enfin, il lui reste un socle qui fait que il est le premier parti. Puis quand il n'est pas le premier parti, c'est le Parti socialiste le premier parti. Donc le socle, on va dire, de ce qui était le bipartisme, il reste là. Alors ce qu'ils espèrent sans doute là, c'est grâce à cette crise, et c'est peut-être le pari de l'actuel président du Parti socialiste Pedro Sanchez, c'est bien peut-être de finalement affaiblir plus encore ces nouveaux partis et refonder quelque chose qui serait de nouveau un bipartisme. Mais ce n'est pas sûr qu'ils y parviennent, parce que le déséquilibre est quand même profond partout.
Parce que j'allais vous demander, qu'est-ce qui peut changer là, le 10 novembre, par rapport à ce qui s'est passé là ces derniers mois? Est-ce que la donne a réellement bougé, réellement changé? Pour encore une fois refaire un peu d'histoire, il faut se souvenir que il y avait une coalition qui fonctionnait avec Pedro Sanchez, et puis c'est sur, effectivement, là, l'indépendance de la Catalogne, que les choses ont explosé, puisque le parti indépendantiste n'a pas voté le budget en exigeant un autre référendum. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on trouverait une issue, une solution différente?
Pour l'instant,
vous avez le droit de dire rien si on n'en sait rien, effectivement.
En fait, il n'y a pas un analyste en Espagne, ni un éditorialiste qui sait ce qui va se passer demain.
C'est fou, j'ai l'impression de parler du Brexit.
Là, c'est un petit peu la situation. Personne ne le sait, d'autant que il y a des échéances qui sont des échéances qui peuvent être provoquer des situations très graves, notamment la sentence du tribunal contre les élus séparatistes catalans.
C'est tout début octobre.
Donc c'est théoriquement avant le 15 octobre. Il y aura d'autres sentences aussi sur des affaires de corruption du Parti socialiste en Andalousie qui peuvent l'affaiblir et qui seraient avant le 10 novembre aussi. Mais si ça se passe très mal en Catalogne à cause de la sentence, ce que va chercher à faire l'Assemblée nationale catalane, qui est vraiment le fer de lance du séparatisme actuellement, si ça se passe très mal, c'est assez difficile d'imaginer ce que ça va donner, et même en termes en fait de vote. Est-ce que ça va mobiliser l'électorat ou le démobiliser? Est-ce qu'il va y avoir un regroupement autour du Parti populaire, ce que je pense espère le Parti populaire? Le Parti centriste est donné comme le grand perdant de l'affaire, puisque c'est lui qui a dit le plus clairement possible non à Pedro Sanchez. Mais d'ici le 10 novembre, franchement, c'est un petit peu difficile de prévoir ce qui peut se passer. Il y a eu tellement de retournements inattendus depuis 4 ans.
Mais il n'y a pas de faiseur de roi, surtout, parce qu'en général, dans une élection aussi compliquée, c'est le cas à chaque fois qu'on essaie de trouver une coalition, quel que soit le pays, il y en a toujours un qui est capable, que, en fonction de l'endroit où il bouge, permettra de dégager une majorité. C'est qui le faiseur de roi? Est-ce que c'est Ciudadanos? Est-ce que c'est Podemos? Est-ce que c'est Vox? Est-ce que ce sont les Catalans?
Jusque-là, dans le système espagnol, vous aviez un bipartisme et les faiseurs de roi, quand il n'y avait pas de majorité absolue, c'était les nationalistes régionaux, donc soit les nationalistes catalans et les nationalistes basques, qui ont toujours su tirer le meilleur profit des faiblesses momentanées de l'un des deux grands partis. Ils sont capables de voter pour l'un ou l'autre tant que ça leur rapporte immédiatement des résultats. Là, la fragmentation du Parlement fait que ces faiseurs de roi ne sont plus suffisants. Là, le Parti nationaliste basque était très déçu de la situation, parce qu'ils avaient vraiment emporté le gros lot avec les socialistes depuis un certain nombre d'années là. Et si jamais la droite arrivait au pouvoir, ça se passerait sans doute pas exactement pareil. Donc des faiseurs de rois, c'est trop fragmenté. D'autant que l'extrême gauche est encore plus fragmentée que l'année dernière.
Si tant est qu'on peut être encore plus fragmenté qu'il l'était. Et du coup, je vous écoute, Barbara Loyer, j'arrive même pas à comprendre à qui profite le blocage au fond, en fait.
Vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule. Je pense que là, vous avez même à l'intérieur du Parti socialiste des options qui sont pas forcément. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et il y en a une qui s'est imposée, qui pense que Podemos va être tellement affaibli parce que, de fait, Podemos est dans une situation mauvaise, très mauvaise à Madrid, où les deux tiers de ses électeurs sont allés vers la scission de Errejón. Et cette scission de Errejón, ils ont décidé qu'ils se présentaient maintenant aux élections, donc c'est du pain béni pour le Parti socialiste. Et en plus, cette scission de Errejón provoque le ralliement d'autres, ce qu'on appelle des confluences de gauche, qui avant étaient les alliés de Podemos et qui s'allieraient peut-être avec ce groupe de Madrid. Et les Andalous de l'extrême gauche ne veulent plus non plus se présenter avec Podemos, parce qu'ils aimeraient bien avoir un groupe parlementaire à eux tout seuls. Donc pour Podemos, la situation est quand même très délicate et ça ferait bien les affaires du Parti Socialiste. Donc, c'est pas sûr qu'ils ratent leur parti. En fait, ils risquent de le réussir avec très peu de députés en plus, ce qui ne résoudra pas le problème.
Exactement, d'une coalition après. Ce qui donne forcément, du côté des Espagnols, des électeurs, une véritable lassitude. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet le reportage de Pierre Chaperon et on se retrouve juste après.
Du dépit, de la fatigue et un peu d'amertume, les rues de la capitale espagnole bruissent d'une forme de découragement. Près de 5 mois après les dernières élections remportées par les socialistes du PSOE et devant l'impossibilité de former un gouvernement, les Espagnols vont retourner aux urnes. Une instabilité chronique, un échiquier politique éclaté, 4 élections en 4 ans et pour la seconde fois, l'incapacité pour des partis de se mettre d'accord pour gouverner. Une situation qui ne plaît pas du tout à Antonio, avocat, la cinquantaine, fatigué de devoir voter une nouvelle fois.
C'est lamentable. Les politiciens, nous les payons pour qu'ils gouvernent. Et ils ne gouvernent pas. C'est absolument fatigant parce qu'en plus, j'ai l'impression que la situation ne va pas changer. Voter tous les 3 mois, c'est à chaque fois une perte de temps. C'est comme si dans votre entreprise, on votait tous les 3 mois pour élire le patron. Moi, je me dirais que l'entreprise est dans un mauvais état. Eh bien là, c'est pareil. Voter tous les 4 ou 5 ans me paraîtrait plus normal.
Pourtant, fin avril, les Espagnols pensaient avoir fait le plus dur, mais les plus de 28% des voix pour le PSOE, soit 123 sièges de députés sur 350, n'ont pas suffi. Pas de majorité absolue pour le président du gouvernement, Pedro Sanchez, et donc une impossibilité pour son parti de gouverner seul. Difficile de faire des alliances, notamment avec le parti de gauche radical Podemos. Malgré les discussions, les tractations qui ont duré près de 5 mois, rien n'y a fait. Résultat, l'Espagne est convoquée à de nouvelles élections anticipées, mais cette fois-ci le 10 novembre. À qui profite ce nouveau scrutin ? Pour Rosa, mère au foyer, la question se pose, mais pour elle, le parti de droite, le Partido Popular et le PSOE à gauche devraient concentrer la majorité des votes.
Je vois les partis traditionnels l'emporter parce que les nouveaux n'apportent pas grand-chose. Ce n'est pas de la peur, mais plutôt un peu d'inquiétude. On ne sait pas s'ils vont arriver à se mettre d'accord parce que si ça se passe comme maintenant, qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord, que va-t-il se passer ? Il peut y avoir les mêmes résultats et il se passera la même chose qu'aujourd'hui. Et comme ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord jusqu'à présent, donc c'est plus de l'incertitude que de la peur.
Une incertitude qui dure depuis plusieurs années et qui, petit à petit, se transforme en lassitude pour des Espagnols voués à retourner aux urnes. Une forme de ras-le-bol qui pourrait se traduire par une forte abstention. L'un des enjeux, si ce n'est le plus important, de ces élections anticipées.
Barbara Loyer, c'est ça l'idée, pourquoi on irait voter, en fait ? Qu'est-ce qu'ils disent les Espagnols aujourd'hui ? Est-ce qu'il risque d'y avoir un ras-le-bol exprimé par une non-participation.
C'est ce contre quoi vont en effet lutter les partis pendant la campagne électorale. Là, si vous voulez, la particularité de l'Espagne, c'est aussi le problème territorial. Le fait que la gauche et notamment l'extrême gauche soit tellement fragmentée territorialement avec des partis de gauche qui se disent souverainistes en fait ou régionalistes localement. Donc si vous voulez, pour arriver à faire un projet pour l'Espagne ou un projet de réforme, on va dire, de ce système. Et c'est vrai qu'il faudrait une période de stabilité et de gouvernement dans laquelle toute cette diversité débouche sur quelque chose de constructif pour stabiliser le système.
Et un scrutin à la proportionnelle plurinominale, ça rend pas les choses plus simples pour créer ensuite derrière une coalition. Est-ce que il peut y avoir une tentation, on va y mettre des guillemets, parce qu'il faut faire attention avec ces mots-là, une tentation populiste, c'est-à-dire d'aller réellement vers un certain nombre de partis. Je pense à Vox, notamment, dont on s'était presque félicité la dernière fois que leur score était finalement moins haut que ce qu'on avait pu imaginer. Est-ce que Vox en tire l'épingle du jeu ou pas du tout, pas encore?
Je pense que Podemos, c'est un parti assez démagogue aussi depuis avant Vox. Leur programme électoral est un programme de beaucoup de promesses, notamment aux gens plus faibles économiquement. Vox est un parti qui est né essentiellement à cause de la question catalane, qui maintenant va essayer de se démarquer non seulement sur la question catalane en se disant plus centraliste, il veut recentraliser, mais aussi sur la question de l'islam, et il va essayer donc d'emporter des voix là-dessus. Mais on n'a pas l'impression que Vox maintenant s'est installé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite conservatrice.
Un petit 10% plus ou moins.
Voilà, c'est installé dans le paysage, mais c'est peu vraisemblable. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'indiquent les études, que Vox n'améliore véritablement son score. Voilà, ils sont installés sur des questions très politiques, notamment, et pas sur des questions, par exemple, économiques. Vox est très libéral. Donc, pour tout ce qui est les pensions, le chômage, les loyers, ils en parlent assez peu et ils sont finalement, oui, assez libéraux. Donc, là-dessus, ils vont pas élargir leur électorat sur ces questions-là.
Dissolution donc aujourd'hui ou demain peut-être, à la limite, peu importe, élection donc le 10 novembre. Barbara Loyer, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde est en Afghanistan où après un énième attentat contre la zone qui abrite les étrangers, les habitants de Kaboul commencent à montrer leur colère. Sans ces étrangers, il n'y aurait pas tant de morts, disent-ils. Le bruit du monde sous les radars, c'est vous, Amélie Perrier. On cherche un trésor alors.
Oui, en Colombie, à qui appartient le trésor du San José, un galion du 18e siècle?
On verra ça ensemble, le monde selon Trump et Grégory Phillips. Qui secoue l'Amérique de Trump, Grégory, c'est un coup de fil.
Oui, et cette affaire ukrainienne dont on parle beaucoup à Washington.
Le monde à l'envers est Jean-Marc Four. Jean-Marc, bonsoir.
Hola, qu'est-ce
que? Est-ce que l'Europe est en train de se mettre d'accord, Frimeur, sur les répartitions de migrants?
Oui, c'est un truc de ouf, un embryon d'accord européen sur les migrants. Ça nous change.
Ça n'arrive que très rarement. Le tour, c'est pas fini, cela dit. Le tour de la planète continue. Allez, voilà les Black Puma Fire sur France Inter.
I'm not afraid to
Le bruit du monde est en Afghanistan ce soir et c'est presque le bruit d'une détonation qu'on aurait pu vous faire entendre à une semaine des élections présidentielles, ou plus ou moins ce sera le 28. La semaine dernière à Kaboul, où nous sommes, 16 personnes sont mortes, une centaine de blessés aussi près du Green Village, la zone fortifiée où sont regroupés les étrangers, les consultants, les ONG. Les talibans ont revendiqué cette attaque et les habitants du quartier laissent monter leur colère. Sans ces étrangers, il n'y aurait pas ces bombes. Le reportage est signé Sonia Ghezali.
Des débris de verre jonchent toujours les trottoirs, les barbelés autrefois au-dessus des murs sont au sol, les échoppes autour du complexe de Green Village sont tous éventrés, calcinés. Goulolet jette un œil amer aux murs de béton armés qui protègent le complexe très sécurisé où ne vivent que des étrangers. À pied, il quitte la route principale pour s'enfoncer dans une ruelle poussiéreuse, un chemin de terre qui mène à sa maison sinistrée.
Quand ma mère est venue nous voir, elle a dit de ne pas laisser les enfants ici.
Le trentenaire soulève la tenture en toile de jute qui lui sert de portail. Il entre dans une cour et pointe les dégâts causés par l'explosion du 2 septembre dernier. Les plafonds de sa maison sont par endroits effondrés, les fenêtres ont été arrachées, des pans de murs entiers ont disparu. Un tracteur piégé a explosé devant Green Village, à 500 mètres de sa maison.
J'étais dans ma chambre. Les enfants dormaient à côté. Il était près de 22 heures. On avait mangé. Je suis professeur d'école. J'étais en train de préparer mes cours. Zalmay Khalilzad, l'envoyé spécial américain pour la paix, était en train de parler sur Tolo News. Soudain, il y a eu un énorme bruit. Je n'ai jamais entendu un bruit pareil de toute ma vie. J'ai couru vers mes enfants. Ils avaient été projetés à l'autre bout de la pièce. Ils étaient couverts de débris.
Sa fille de 5 ans, Zinad, montre le sommet de son crâne. Elle écarte ses cheveux. Apparaît une large croûte de sang.
J'ai un bobo sur la tête.
Son père reprend hors de lui.
Avant cette explosion, il y en avait eu une autre. C'était il y a 6 ou 7 mois. L'hiver dernier, je crois. Moustag et Zakher, ils n'étaient même pas mariés. Thor aussi est mort. Un autre enfant aussi est mort, là, juste ici.
C'est la 8e fois que Gololay dit être témoin d'un attentat. Le lendemain de la dernière explosion en date, il est allé exprimer sa colère devant Green Village avec des dizaines d'autres habitants. Morts aux étrangers, criaient certains. La police les a rapidement dispersés.
J'ai été manifesté. Dès le début, j'étais contre cette base. Je serai toujours contre. Dès que ce camp s'est installé ici, les explosions ont commencé. C'est à cause de ces étrangers que les kamikazes se font exploser et qu'il y a des attentats partout en Afghanistan. Si j'avais du pouvoir, je ferais sortir ces étrangers du pays. Il faut qu'ils aillent vivre ailleurs. Il faut qu'il quitte l'Afghanistan.
Un voisin en colère intervient.
Nous ne dormons plus la nuit. J'ai un enfant qui est psychologiquement malade. Ma femme aussi. Nous avons peur en permanence.
Les talibans revendiquent les attaques en affirmant ne pas viser les civils, mais s'attaquer toujours à des cibles étrangères ou gouvernementales. Mais les attentats menés en plein cœur des villes tuent toujours un nombre record de civils.
Sonia Ghezali à Kaboul pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne ça. C'est le bruit d'une ville. Nous sommes à Bata, en Guinée équatoriale. 800 000 habitants, Amélie Perrier, privée d'eau courante.
Oui, la Guinée équatoriale, pour vous resituer, c'est un tout petit état en Afrique centrale, coincé entre le Gabon et le Cameroun. Et si l'on en parle, c'est plus souvent pour les frasques de ses dirigeants.
C'est à la fois la fin d'une culture d'impunité, même s'il y a encore des obstacles. Et puis, ça marque aussi la fin d'une espèce de culture de résignation et de fatalisme dans laquelle était une partie des opinions publiques africaines en disant « on ne pourra jamais s'en défaire ». Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une étape importante.
Alors ici, c'est William Bourdon, l'avocat de l'ONG Transparency International, partie civile au procès des biens mal acquis en France. Teodoro Obiang, le président de Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 40 ans, est soupçonné avec son fils d'avoir constitué sa fortune, ses immeubles et ses biens de luxe acquis en France, avec de l'argent public détourné de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un pays très riche hein, sur le papier, l'un des plus hauts niveaux de richesse du continent africain, avec un PIB par habitant de plus de 21 000 dollars. Mais en réalité, l'argent du pétrole ne profite qu'à une minorité qui souvent le détourne pour des projets personnels, surtout en Europe, plutôt que dans le système de santé ou d'éducation. La population en majorité vit dans la plus grande précarité. Le pays fait partie des plus corrompus au monde, disent les ONG. Pas étonnant donc que les services les plus basiques, comme la distribution d'eau potable, déraillent depuis plus de 3 semaines.
En Syrie, c'est la guerre qui ravage le pays depuis 2011. L'économie, elle, aujourd'hui est au plus bas.
La monnaie syrienne vient d'atteindre son plus bas historique par rapport au dollar sur le marché noir. Et loin de la macroéconomie, les commerçants et les clients en souffrent au quotidien. Écoutez ici au micro de l'AFP ce marchand dans le vieux Damas, la capitale. La valeur du dollar ne cesse de grimper chaque jour, nous dit-il. Elle passe de 20 à 30 livres syriennes, puis 40 livres syriennes. Les prix évoluent d'une heure à l'autre. Ça veut dire que le client qui a acheté quelque chose hier, il va devoir le payer plus cher aujourd'hui. Car les commerçants importent beaucoup de produits à Damas et les achètent en dollars. Quand ils les revendent, c'est en livres syriennes. Ce qu'ils ont acheté 1 dollar, ils doivent les revendre 500, puis 550, puis 600 livres syrienne au fil des jours. Des fluctuations totalement folles. Le conflit en 8 ans a asséché les réserves de l'État en devises étrangères et fait chuter les revenus. Le pouvoir n'a plus la main sur tout le pétrole du pays. Et la situation s'est encore aggravée avec les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Aujourd'hui, les Syriens ont de plus en plus de mal à faire leurs courses.
La Colombie, enfin, Amélie, se passionne pour un trésor caché dans une épave du XVIIIe siècle.
Une épave de plus de 35 mètres de long, le galion San José, coulé en juin 1708 par la flotte britannique. Il repose désormais, ce navire, à plus de 600 mètres de profondeur dans les eaux colombiennes. On pense qu'il transportait des poteries chinoises de la dynastie Qing, près de 200 tonnes d'or en pièces et en lingots, un trésor estimé en tout à 1 milliard de dollars. Mais à qui appartient ce butin ? Aujourd'hui, le gouvernement repousse encore de 3 mois l'attribution à une société privée des travaux pour sortir les vestiges. L'exécutif a des doutes juridiques. Déjà l'an dernier, le président Juan Manuel Santos stoppait tout.
Por respeto a las instancias judiciales.
Par respect pour les instances judiciaires, dit le chef de l'État, et par respect des règles de droit, cela a toujours été un principe dans mon gouvernement, je suspends le processus en cours. Et son successeur, Ivan Duque, fait exactement la même chose aujourd'hui. La question, en fait, est loin d'être seulement archéologique, elle est aussi judiciaire et donc diplomatique. L'Espagne accepte, en fait, de renoncer à ses droits sur son ancien galion si, seulement si, un musée est bâti pour accueillir le trésor. Des sociétés privées, dont une américaine ou encore un consortium international mené par un historien cubain, réclament eux aussi leur part du trésor ou une indemnisation équivalente, car ils affirment avoir fourni les coordonnées exactes de l'épave à la Colombie. Vous comprenez l'imbroglio juridique. En attendant, un trésor repose à 600 mètres de fond.
Voilà, un trésor qui est là depuis
1708.
Bah, il peut attendre encore un peu. Allons-y, Amélie, mettons nos palmes. Allons-y nous-mêmes. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
La suite, ça se passe aux États-Unis où nous attend Grégory Phillips pour patienter Madeleine Perrou. Careless Love.
love, oh careless love.
Madeleine Perroux sur France Inter, il y avait longtemps, dites-moi, Careless Love, ce qui nous emmène directement donc dans les bras de Grégory Philips.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Enfin, c'est une image, hein, Grégory. Le monde selon Trump, saison 3. Grégory, la semaine qui débute, évidemment marquée par l'Assemblée générale des Nations unies. On y viendra tout à l'heure, on y viendra sûrement toute cette semaine. Et d'ailleurs demain, dans Un jour dans le monde. Mais d'abord, cette affaire ukrainienne, assez compliquée, qu'on va essayer de démêler avec vous. Affaire qui, depuis quelques jours, agite le monde politique américain. Tout est parti des déclarations d'un membre des services de renseignement américains.
Oui, alors tout commence le 12 août dernier. Celui que la presse américaine présente comme le whistleblower, le lanceur d'alerte, saisit l'inspection générale des services et affirme que lors d'une conversation téléphonique avec un dirigeant étranger, Donald Trump a tenu des propos qui mettent en péril la sécurité nationale. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième épisode, on apprend que la conversation en question est celle que le président américain a eue fin juillet avec son homologue ukrainien Zelensky, nouvellement élu, et que lors de cette discussion, eh bien Trump aurait fait pression sur le chef d'État afin qu'il enquête sur les affaires en Ukraine de Hunter Biden, qui est le second fils de Joe Biden. Vous me suivez? Ça va, c'est clair jusqu'ici?
Je vous suis toujours, absolument.
Et donc en gros, allez-y. La Maison-Blanche cherche des informations sur le fils du principal candidat à l'investiture démocrate, sur une époque où Joe Biden était le vice-président d'Obama. On parle des années 2014-2016, ce que Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, justifiait hier sur CBS.
If there was election interference that took place by the vice president, I think the American people deserve to know that.
Les Américains ont le droit de savoir s'il y a eu une ingérence de la part du vice-président, dit le secrétaire d'État. Mm-hmm. En fait, Hunter Biden travaillait bien pour un groupe gazier ukrainien, mais son père jure et a toujours juré qu'il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts.
Et donc le problème, c'est que selon ce lanceur d'alerte, Trump aurait demandé au nouveau président ukrainien Zelensky de lui fournir des informations sur Joe Biden, qui sera peut-être son adversaire pour la présidentielle de 2020.
Oui, et lors de ce coup de fil, Trump aurait insisté à 8 reprises, selon le Wall Street Journal. Du coup, l'opposition démocrate ici à Washington veut obtenir à minima la retranscription, si ce n'est l'enregistrement de cette conversation. Et à la Chambre, eh ben, y a de plus en plus de démocrates qui se disent que cet épisode pourrait bien déboucher à nouveau sur une tentative de destitution du président. Écoutez bien, c'est ce que dit sur CNN le représentant Adam Schiff, qui dirige aussi la commission du renseignement.
The president is pushing us down this road. And we may very well have crossed the Rubicon here.
Le président nous pousse dans cette direction et nous allons peut-être franchir le Rubicon. Alors Fabienne, on sait que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est plutôt réticente à l'idée de déclencher une telle procédure dont tout le monde sait qu'elle a peu de chances d'aboutir. Mais là, la pression de sa base est assez forte. Quant à Trump, il se dit pas inquiet, prêt même à ce qu'on rende public le contenu de ce coup de fil. Écoutez, c'était hier soir avant de partir à New York.
The conversation, by the way, was absolutely perfect. It was a beautiful, warm, nice conversation. What you have to do is look at the corruption.
Très bonne conversation. Faut surtout regarder la corruption du côté des démocrates.
C'est fou qu'à chaque fois qu'il fait une interview, on a l'impression qu'il l'a fait juste à côté de son hélicoptère.
Exactement. Trump. C'est avant de décoller de la pelouse de la Maison Blanche.
Voilà. Et Joe Biden, alors, qu'est-ce qu'il dit lui?
Eh bien, pour l'ancien vice-président et donc candidat démocrate, il s'agit d'une manœuvre de Trump et de la Maison-Blanche. Écoutez, c'est très court.
Trump's doing this because he knows I'll beat him like a drum.
Voilà, Trump fait ça parce qu'il sait que je vais le battre comme un tambour. Désolé pour la traduction un peu littérale. En tout cas, cette affaire, on risque d'en reparler dans les prochains jours et peut-être, sait-on jamais, dans les prochaines semaines.
Rapidement, un œil sur la campagne d'investiture démocrate, Grégory. On parlait justement d'elle jeudi dernier. Elizabeth Warren, réellement le vent en poupe là pour le coup?
Oui, vous avez raison, parce que dans l'état clé de l'Iowa, qui en février sera le premier à voter, eh bien la sénatrice du Massachusetts, c'est important, est désormais en tête des intentions de vote devant Joe Biden, qui lui reste favori des sondages nationaux. Mais on sait que l'Iowa, c'est quand même très important. On sait que celui qui, en début d'année prochaine, remportera cette primaire là-bas en Iowa, marquera des points.
Et Grégory, je voulais juste vous faire une surprise et vous faire plaisir aujourd'hui. Écoutez ça. Vous pleurez un petit peu là ou pas?
Bon anniversaire le boss.
Voilà, Bruce Springsteen a 70 ans et il ne les fait pas, Grégory. On vous remercie beaucoup et à très bientôt.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Et le monde à l'envers de Jean Marfour. Après des années de cacophonie et de règlement de compte interne sur le dossier des migrants, les Européens sont peut-être en train de s'entendre sur le sujet. C'est ce que laisse espérer, en tout cas, un préaccord obtenu il y a 2 heures à Malte. Qu'est-ce qui arrive à l'Europe alors? Et c'est votre monde à l'envers, Jean-Marc?
Ouais, c'est un peu le truc qu'on n'espérait plus tellement les Européens, Français et Italiens en particulier, nous ont habitués à des controverses consternante sur l'accueil des réfugiés à chaque nouvelle arrivée d'un bateau d'ONG rempli de migrants, avec à la clé, hein, vous vous en souvenez, ces échanges de noms d'oiseaux où l'on se refile la responsabilité du drame comme une patate chaude. Et plus globalement, d'ailleurs, les 27 n'ont su s'entendre ces dernières années que sur une seule chose, sous-traiter l'affaire à des tiers, la Turquie, la Libye, plus récemment le Rwanda, on en a parlé, et laisser la Méditerranée se transformer en cimetière de migrants. Et donc, voilà TIPAC cet après-midi à Malte, Français, Allemands, Italiens et Maltais ont trouvé un accord de principe sur un mécanisme automatique de relocalisation des migrants. Ça veut dire une clé de répartition, si vous voulez, entre les pays pour les demandeurs d'asile dès qu'ils arrivent sur le sol italien ou maltais. Selon une piste de travail encore officieuse, l'Allemagne en accueillerait 25%, la France 25% également, l'Italie 10%, le reste à répartir entre plusieurs pays volontaires, la Finlande, l'Irlande, la Croatie, le Portugal seraient partants. Concrètement, ça mettrait donc un terme à cette farce ridicule et répétée qui discrédite l'Europe, donc à chaque fois qu'un bateau fait des ronds dans l'eau en attendant un accord entre capitales. En 2015, un mécanisme similaire avait été adopté par les 27. Il n'a jamais fonctionné. Cette fois, ça semble mieux engagé.
Et donc, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il arrive à l'Europe, en gros?
Alors, il y a une hypothèse optimiste, une fois n'est pas coutume, que ce soit le fruit d'une vraie prise de conscience politique. Rêvons un peu. Un accord honorable entre Européens pour accueillir les migrants, ce serait la démonstration de l'utilité de l'Union et de sa capacité à s'entendre sur des sujets clés sous l'impulsion de Paris, Berlin et Rome. Ce serait aussi la preuve que les Européens peuvent désamorcer avec des solutions rationnelles posées le sujet de prédilection de l'extrême droite, son atout électoral numéro un. Ce serait un premier résultat tangible pour le nouveau et encore fragile gouvernement italien, confronté aux outrances que l'on sait du patron de la Ligue, Matteo Salvini, désormais dans l'opposition. Sur les migrants, la solution, disait d'ailleurs Emmanuel Macron la semaine dernière à Rome, ne passe pas par le repli, mais par la coopération européenne, sauf qu'il faut encore le traduire en actes. Et puis, cet embryon d'accord a le mérite de reposer sur la base du volontariat. Autrement dit, ça ne forcerait pas la main au gouvernement de l'Est, polonais, hongrois, qui reste fermé sur cette question. Et c'est peut-être finalement plus adroit pour préserver l'unité européenne. Donc, on se résume, cet accord de Malte, ou ce préaccord, est assez constructif et ça nous change sur la question migratoire.
Mais ça reste un tout petit pas.
Un tout petit pas, oui. Et il s'agit que d'un accord temporaire qui doit encore être validé par l'ensemble des 27 pays de l'Union dans 2 semaines. Et surtout, il est loin de répondre à toutes les questions. Il ne traite que des demandeurs d'asile, pas des réfugiés économiques, et on sait que la distinction est parfois ténue. Il ne résout pas, pour l'instant, la question d'une rotation des ports d'accueil pour les migrants. L'Italie pousse pour y faire figurer Marseille, la France est réticente. Il ne répond qu'à la situation en Méditerranée centrale, l'Italie, Malte, alors que les flux se sont déplacés très majoritairement cette année vers la Grèce, à l'Est, 59% des arrivées en Europe cette année, et vers l'Espagne, à l'Ouest, 29% du total. Et il ne modifie pas non plus le célèbre règlement de Dublin, ce système très critiqué qui fait porter la charge des demandes d'asile exclusivement aux pays de premier accueil, ces pays où débarquent les bateaux. Et enfin, ça risque de servir de cache-sexe pour dissimuler ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Silence radio sur les morts en mer et sur le traitement réservé aux migrants bloqués ou renvoyés en Libye. Vous avez compris, on est donc loin du compte. Ce n'est en effet qu'un tout petit pas, mais c'est un début, l'amorce d'un changement de logiciel européen sur ce dossier des migrants, et c'est en soi considérable.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, et à demain. Le 18-20, la suite, c'est Le Téléphone sonne. Bonne soirée à vous, ne bougez pas.